J'ai voulu vous proposer une petite intervention d'une demi-heure, donc sur un point qui me semble important dans l'actualité éducative d'aujourd'hui. C'est donc la question de la liberté pour la gestion mentale dans un environnement éducatif dominé par les neurosciences. Je sais qu'aujourd'hui, sur un plan institutionnel, sur un plan médiatique, tout ce qui vient des neurosciences est quelque chose donc qui est devenu vraiment extrêmement présent. Et évidemment, voilà, avec ma façon de voir les choses, avec ma subjectivité, bien sûr, j'ai eu envie de vous en parler, peut-être pour rappeler des choses au fond assez simples, mais qui me paraissent importantes. Alors, qu'est-ce qu'être libre dans ce contexte-là ? Être libre, d'abord, c'est s'accepter soi-même, bien sûr. C'est se connaître aussi, la gestion mentale nous y aide. C'est avoir de la bienveillance à l'égard de soi-même, de l'amour propre. Et c'est important que nous soyons porteurs de cela, nous aussi. Être libre, c'est aussi s'autoriser. J'ai mis une petite pièce bien rangée, là, avec des étagères. Bon, j'ai pensé que ça pourrait symboliser, en quelque sorte, la gestion mentale, le cadre de la gestion mentale. Et cette maison bien rangée, c'est un univers familier dans lequel on se sent bien. Ça peut être aussi un cadre un peu étouffant parfois. Et être libre, c'est peut-être aussi parfois s'autoriser à se frotter aux limites du cadre, voire même peut-être parfois s'en affranchir, hein, au moins pendant un moment. Alors, ça permet d'ouvrir des portes. Et quand on s'ouvre à l'extérieur et dans l'actualité éducative qui est la nôtre, eh bien, on tombe là-dessus. Donc, sur cette, moi, ce que j'appelle familièrement la galaxie Noro. Voilà. La galaxie Noro. Avec tout ce qui provient des neurosciences et peut-être plus largement des sciences cognitives, même si là, bon, il y aurait des tas de nuances à développer. Et dans cette galaxie neuro, eh bien, et ça va être l'annonce de mon propos, je pense qu'il est important d'abord de défendre notre identité, ce que nous sommes. À partir de là, si on est bien conscient de ce que nous sommes et ce qui est vraiment fondamental dans la gestion mentale, c'est la possibilité de se rapprocher, de s'ouvrir, d'envisager des liens avec justement des éléments de cette galaxie neuro qui nous semble intéressant et peut-être compatible avec ce qui est fondamental pour nous. Et du coup, ça mène à réfléchir à des voies nouvelles et en particulier sur un point qui me semble crucial aujourd'hui, c'est comment nous faire comprendre. Comment nous faire comprendre de l'extérieur. Je vais y revenir donc au long de cette petite intervention. Notre identité, des voies nouvelles, des rapprochements possibles, et je vais commencer par le premier point, la liberté d'affirmer ce qui fait notre identité. Alors évidemment, dans ce qui fait notre identité, il y a l'héritage Antoine de la Vérendrye, bien sûr, qui est une source d'inspiration, une référence, toujours évidemment aujourd'hui, plus que jamais. Et Thierry va nous ramener donc à la façon d'Antoine de la Vérendrye à penser la place de la liberté et comment il a réfléchi à cette thématique. Pour voir les choses un peu en parallèle, j'ai eu envie d'imaginer que la gestion mentale est un arbre. Avec son feuillage, son tronc, ses racines, en imaginant que peut-être que chacun d'entre nous, nous serions des feuilles de cet arbre, et avec un espèce de foisonnement, une richesse bien sûr, mais qui peut parfois laisser penser une certaine dispersion. Et donc, pour réfléchir à l'identité de la gestion en place, je ne vais pas tellement m'intéresser au feuillage, mais je vais plutôt me centrer sur le tronc et sur les racines. Sachant que, là encore, c'est ma façon de voir les choses. Alors, avant de développer ces deux aspects, voilà, qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui est notre enracinement à nous, donc acteurs de la gestion mentale. Alors, avant de développer ces aspects-là, je voulais quand même pointer un certain nombre de confusions dont nous sommes victimes aujourd'hui dans le regard que porte sur nous, en particulier donc un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, d'enseignants aussi qui se réclament de la neuropédagogie ou de la neuroéducation. Ça peut être vu de façon négative, ça peut être vu de façon positive. Je dirais que dans les deux cas, ça pose problème. Alors, de façon positive, bon, nous sommes des pionniers, hein, l'œuvre d'Antoine de la Garandie en témoigne, du bricolage sur l'activité mentale, l'activité cérébrale. Et finalement, nous avons réfléchi, peut-être depuis fort longtemps, à l'attention, la mémorisation. Alors, la métacognition, mais que nous, on préfère utiliser un autre vocabulaire pour la définir. Et tous ces termes-là, toutes ces notions-là, on les retrouve, bien entendu, dans les travaux donc des neuroscientifiques. Et ce qui fait que, finalement, eh bien, on est au mieux considéré comme une neuropédagogie. Une déclinaison possible, donc, de ce qui vient de l'environnement des neurosciences, des sciences cognitives. Alors, évidemment, il y a aussi le versant négatif. Et le versant négatif, vous connaissez sans doute, c'est qu'on peut être purement et simplement assimilé au style VAC, hein, visuel, auditif, kinesthésique, avec cette confusion, bien sûr, hein, que vous connaissez, entre les préférences perceptives et les modalités évocatives. Et là, évidemment, nous sommes assimilés à des neuromythes. Alors, il y a une expression moi, qui m'a beaucoup amusé, et c'est Nicole Boin qui m'en avait parlé. Et semble-t-il, alors je traduis ce que m'a dit Nicole Boin, c'est qu'Elena Pasquinelli, qui est une spécialiste des neurosciences, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon cerveau, ce héros », donc, à qualifier la gestion mentale de neuromythe bienveillant. Bon, c'est gentil pour bienveillant, c'est plus gênant, évidemment, pour neuromythe. Ce qui fait que, voilà, ça pousse à réfléchir à comment faire pour dissiper ces confusions, comment essayer d'éclaircir les choses. Et j'en reviens à cette question d'identité, pour le coup. Et commencer par les racines. Quel est notre enracinement? Quel est notre cadre de référence? Et là, incontestablement, notre cadre de référence, il est phénoménologique. Et je crois que c'est un point absolument central, un point qu'il faut affirmer, qu'il faut défendre et qui nous distingue très clairement des neurosciences et de tout ce qui s'y rapporte. Si je le dis avec des mots peut-être plus simples, nous explorons les vécus d'apprentissage. Ça a été mentionné, ça a été montré à travers différentes interventions lors de ce colloque, bien sûr, hein, je formule des évidences. Hein. Donc, nous sommes dans une perspective d'exploration de la subjectivité de chacun. Il s'agit donc d'une approche en première personne, avec une dimension expérientielle, et ça nous distingue fortement de ce qui est généralement issu des neurosciences. Et c'est un aspect absolument central. En plus, je pense qu'il faudrait ajouter que dans notre relation au monde, notre être au monde, eh bien nous sommes fondamentalement, c'est la façon dont nous voyons les choses, dans une relation dynamique. D'où une bonne partie du vocabulaire qui caractérise la gestion mentale, avec des notions de projet, geste, mobilité de pensée, bon, etc., etc. On pourrait ajouter encore d'autres termes. Et évidemment, tout cela au service du sens, bien sûr. Comprendre le monde, se comprendre soi-même, à travers notre relation au monde. Donc, voilà, autant de fondamentaux qu'il me paraît essentiel d'affirmer pour être clairement visible de l'extérieur. Alors, attention, on n'est pas forcément écouté, c'est bien les aspects des problèmes, bien sûr. Voilà, au niveau de l'enracinement, c'est ce qui, moi, personnellement, me paraît absolument central. Si on passe maintenant au tronc. Alors, le tronc, moi, j'ai envie de... Enfin, ce qui m'a paru essentiel, ce sont nos outils d'exploration. Précisément, cette subjectivité, ces vécus. Bien sûr, avec le dialogue pédagogique et l'introspection, les deux étant, bien entendu, étroitement liés. Et je crois qu'il me paraît essentiel de rappeler que ces outils d'exploration mènent à une idée qui est fondamentale pour nous, c'est que chaque personne est unique dans sa relation aux apprentissages, et plus largement dans sa relation au monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez souvent absent dans les propositions des neuroscientifiques, qui insistent plutôt sur les éléments communs du fonctionnement cérébral, avec des nuances, bien sûr, hein, avec des nuances. Mais je crois que, pour nous, c'est vraiment un élément absolument central. Hein, qu'on parle de profil pédagogique, de personnalité cognitive, de différentes façons d'apprendre, plus simplement. Alors, du coup, voilà, il est important de rappeler aussi qu'on se rattache à une tradition humaniste qui est quand même menacée aujourd'hui, et qu'il est essentiel de défendre dans le contexte actuel que l'on connaît. Alors, également, on peut le formuler avec cette belle expression d'herméneutique du sujet. C'est-à-dire que finalement, chacun d'entre nous, nous sommes comme un mystère à décrypter, hein, et que, justement, le dialogue pédagogique va nous aider à révéler donc le sens qui est en nous, le sens qui nous met en mouvement. Et vous voyez, là encore, la singularité de chacun est absolument déterminante donc sur le plan de la façon dont nous voyons les choses. Alors, à une échelle plus prosaïque et plus réduite, moi, il y a quelque chose aussi qui me paraît absolument central. Ah oui, excusez-moi, je voulais insister sur également l'idée que, du coup, en conséquence de ça, nous faisons passer d'abord les savoir-être avant les savoirs et les savoir-faire. C'est-à-dire que la conscience de notre être au monde, de nos projets de sens, hein, va être déterminante pour nous rendre disponibles, disponibles avec plaisir et efficacité pour acquérir savoir et savoir-faire. Alors, à une échelle plus quotidienne, moi, il y a une problématique que je défends absolument et qui me paraît absolument centrale au niveau de la tâche. Au niveau de la tâche, c'est la problématique des passages obligés et des variables individuelles. C'est une problématique d'ailleurs qui n'a pas été uniquement soulevée par des chercheurs ou des formateurs en gestion mentale, puisque Philippe Merlieu l'avait également formulé à la fin des années 1980. Mais je crois que c'est un élément central et qui guide une bonne partie de notre action pédagogique, je pense en tant qu'enseignant, hein, mais chaque fois qu'on donne quelque chose à faire aux élèves, moi c'est vraiment une question que je me pose qui est absolument incontournable. Absolument incontournable. Alors, vous voyez, ça fait donc, au niveau de l'enracinement, au niveau du tronc, voilà ce qui me paraît vraiment central, ce qui me paraît être de l'ordre de notre liberté, quand il s'agit d'affirmer notre identité, ce que nous sommes. À partir de là, eh bien, on peut créer des liens, on peut opérer des rapprochements, et l'arbre de la gestion mentale donc, peut être confronté à cette galaxie neuro, hein, qui voilà, nous semble un peu écrasante, en fait, et à cause de sa présence médiatique, et de, voilà, tout ce qui peut peser aussi sur nous institutionnellement, hein, puisque la création du Conseil scientifique de l'éducation, c'était au début de l'année 2018, est un outil en fait, hein, de diffusion officielle de toutes ces approches. Dans toutes ces planètes, vous voyez, qui se rattachent à la neuropédagogie, puisqu'on peut parler de neuro-enseignement, de neuro-éducation, j'ai trouvé neuro-coaching aussi, j'ai trouvé neuro-bien-être également, hein, donc vous voyez, il y a des déclinaisons infinies. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on est bien conscient de notre identité? Eh bien, il faut, me semble-t-il, se confronter. Se confronter dans les deux sens. C'est-à-dire, je pense d'abord, être conscient et même fier de ce qu'on peut apporter. Et je vais commencer par là. Mais aussi prendre, évidemment. Prendre. Hein. Car on a certainement des choses à retirer de tous ces travaux qui sont, pour certains, extrêmement importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Bah, je reviens juste très rapidement sur ce que j'ai parcouru dans le premier temps, en fait. Hein. Mais un cadre en première personne, une conception de l'être humain, un regard sur l'acte d'apprendre, des concepts, bien sûr, hein, qui ont été longuement expérimentés, développés par Antoine de la Garandrie et d'autres formateurs, un questionnement, bien entendu, le dialogue pédagogique, des pratiques, qui là aussi sont utilisés, testés, enrichis depuis longtemps, des valeurs et également une éthique de l'accompagnement. Et tout ça forme un ensemble qui est très complet en fait. Je vais m'appuyer sur une grande figure de pédagogie qui est Philippe Mérieux et qui nous propose un modèle donc permettant de définir ce que c'est qu'une pédagogie. Alors vous me direz, oui, mais la gestion mentale n'est pas qu'une pédagogie. Tout à fait d'accord, bien sûr. Mais en tout cas, si on se réfère à ce niveau-là, eh bien, vous voyez, dans le modèle de Mérieux, il considère qu'une pédagogie est faite de l'articulation de connaissances, de pratiques et de finalités. Incontestablement, si on confronte ce modèle à ce que j'ai brièvement résumé plus haut, eh bien, nous sommes clairement présents à ces trois niveaux. Nous sommes présents au niveau des connaissances, bien sûr, par toute la théorie qui s'érige de la gestion mentale. Nous sommes présents au niveau des pratiques et j'insiste sur les finalités, car notre conception d'être humain, notre éthique, nos valeurs, nous donnent un projet éducatif qui a sa cohérence, bien sûr. Or, un des grands reproches que fait Philippe Mérieux à tout ce qui vient des neurosciences, aux neuropédagogies, il en parle notamment dans son dernier ouvrage qui s'appelle « La riposte », c'est que finalement, ces neuropédagogies sont souvent très floues quant à leur finalité, hein, peu claires. Quel est le projet, au fond, quel est le projet éducatif de ces neuropédagogies? Il y a des choses extrêmement différentes, en fait, et beaucoup de choses pas claires, au fond. Et puis, par ailleurs, au niveau des pratiques, eh bien, en tant que formateur dans l'Académie de Paris, hein, j'ai été confronté à des choses un peu étonnantes quand même, avec, tenant de cette neuropédagogie, une certaine tendance à oublier tout simplement l'histoire de la pédagogie. Je ne parle même pas de la gestion mentale, mais oublier l'histoire de la pédagogie et finalement réinventer un peu l'eau chaude, alors que, voilà, il y a des tas de choses qu'on fait depuis très longtemps et qui étaient. Alors, serait relégitimé effectivement par les connaissances neuroscientifiques, mais qui en aucun cas ne sont des nouveautés. Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît essentiel. Et je vais m'appuyer sur une autre grande figure, c'est Edgar Morin. Car Edgar Morin nous propose donc, avec son modèle de la complexité, je pense un cadre dans lequel nous pouvons nous inscrire avec profit, en particulier donc pour nous rapprocher, enfin, envisageant en tout cas des liens avec d'autres approches. Ah, je suis allé trop vite, moi aussi, il est sensible. Alors du coup, oui, ce modèle de la complexité essaie de ne pas opposer, justement. Ne pas être dans des oppositions binaires entre d'un côté, donc les neurosciences, de l'autre, la gestion mentale. Mais chercher en fait des articulations. Ce qui n'empêche pas évidemment l'esprit critique, ce qui n'empêche pas de poser un stop quand ces articulations ne sont pas possibles. Mais ce modèle de la complicité, je pense que pour nous, il est important pour que la gestion mentale puisse trouver sa place, justement, en parallèle, à côté de cette galaxie neuro. Alors, est-ce que ce sera à l'intérieur ? Non, mais dans un dialogue, en tout cas, avec cette galaxie neuro. Voilà pour ce que nous pouvons apporter. Et c'est beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et on a tendance à jouer les petits poussés par rapport à voilà, le géant neuroscientifique avec tout ce qui en découle. Mais sur un plan pédagogique, éthique, sur le plan des finalités, on a énormément de choses à apporter. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas aussi de retirer un certain nombre de choses importantes, intéressantes, des travaux d'un certain nombre de chercheurs en neurosciences. Je vais juste prendre quatre exemples, et je ne fais que les mentionner, hein, parce qu'évidemment ça nous mènerait beaucoup trop loin, et je vois que le temps passe vite. La plasticité cérébrale. Voilà, quelque chose, une notion qui fait à peu près consensus, avec quelques petites nuances, bon, certaines phases de développement peut-être, mais qui fait consensus chez les chercheurs. Voilà, qu'est-ce que nous, comment on peut traduire cette notion avec notre corpus théorique, en fait, ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Autre modèle, le modèle des quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, où on retrouve voilà, la notion d'attention, mais avec d'autres termes, l'engagement actif, le retour d'information, la consolidation. C'est un modèle qui est extrêmement diffusé, extrêmement commenté, et là aussi, comment on peut l'intégrer, ou quel lien, en tout cas, on peut établir avec notre propre façon de voir les choses. Alors, je pense aussi, vous reconnaissez peut-être ce petit personnage, voilà aux travaux de Jean-Philippe Lachaud. Ça, c'est un extrait des petites bulles de l'attention. C'est la métaphore de la poutre. Être attentif, c'est comme rester en équilibre sur une poutre et résister donc à tout ce qui peut nous distraire. Et en fait, ces travaux de Lachaud, on peut établir des rapprochements. Et c'est d'ailleurs probablement un des neuroscientifiques qui est le plus, j'allais dire, neuro-gestionnellement, gestion mentalement compatible, mais je ne sais pas, c'est une expression compliquée. Sans oublier tout ce qu'il a écrit aussi sur la métacognition. Lachaud parle d'accompagnement métacognitif, qui nous fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup penser au dialogue pédagogique. Un dernier exemple, c'est l'exemple des travaux d'Olivier Houdet, avec ces trois systèmes cognitifs, et en particulier le système d'inhibition, qui permet donc de basculer d'un système heuristique qui est peu coûteux en énergie, mais qui peut mener facilement à des erreurs, un système algorithmique qui lui sera beaucoup plus lent, et coûteux en énergie, mais beaucoup plus fiable. Alors, vous voyez, à partir de tout cela, eh bien, je pense que les confrontations sont vraiment inévitables. On ne peut pas rester en dehors de cela. Est-ce que des articulations sont possibles? Alors là, c'est à discuter. Et est-ce que aussi les reformulations sont possibles avec notre propre vocabulaire, et notre propre corpus théorique, nos propres concepts? Voilà donc sur cet aspect d'articulation avec à la fois, encore une fois, ce que nous pouvons apporter et ce que nous pouvons retirer. Et du coup, à partir de là, pour aller un petit peu plus loin, se pose la question de quelle liberté dans la recherche des voies pour nous faire comprendre. Car nous avons un problème quand même. Nous sommes aujourd'hui dans une société numérique. Pascal Chabot nous a rappelé certains des éléments qui sont liés à cette société numérique, au niveau du système, des ultra-forces,
les vitres, les écrans, etc. Et en fait, pour nous, c'est une difficulté parce que nous nous rattachons au paradigme de la complexité. Incontestablement, c'est un élément capital de la gestion mentale. La théorie de la gestion mentale est complexe. C'est pour ça qu'elle est autant caricaturée, autant déformée aujourd'hui, et de façon parfois extrêmement irritante, qui nous mène à nous mettre en colère. Je ne sais pas quel est ce que tu en penses, mais bon, voilà. Et on est face à un paradoxe. On est face à un paradoxe parce que on ressent la nécessité de simplifier. Dans cette société numérique, tout va très vite. On est dans le zapping, on est dans l'immédiateté, on est dans l'impulsivité. Et donc, on peut penser que simplifier, ça peut être une bonne façon de mieux nous faire comprendre. Le problème, c'est que on risque de dénaturer en simplifiant. Et évidemment, c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre, bien entendu. Que certains prennent peut-être, mais que nous, dans notre cadre, nous ne pourrons pas prendre. On peut ressentir la nécessité de s'adapter. C'est une façon de dire les choses un peu différemment, mais là encore, s'adapter peut facilement mener à se renier. Et donc, là aussi, ça n'est évidemment pas acceptable. Alors finalement, comment faire pour essayer de surmonter ce paradoxe? Eh bien là, j'ai pensé à cette belle expression qui vient de Guy Avanzini, et qui est donc la fidélité inventive, qui figure dans le petit livre consacré à la pensée d'Antoine de la Garandrie, page 29, c'est très bien. Non, mais ça, j'ai bien retenu. Voilà. Non, mais c'est une expression que je trouve vraiment importante, parce que je pense qu'elle peut nous aider à surmonter cette contradiction. C'est-à-dire que je vais insister d'abord sur l'inventivité. Soyons inventifs. Je crois que c'est un aspect important, et cette inventivité, je pense qu'on peut la mettre en œuvre en s'autorisant justement, d'une part au niveau de la recherche, à la fois de nouvelles démarches, de nouveaux concepts. Là, évidemment, je pense au Collège Recherche de l'IGM, bien entendu, qui travaille dans cette direction. Mais il y a aussi d'autres recherches menées par d'autres organismes qui sont également tout à fait respectables, et c'est un aspect évidemment essentiel. Voilà un point qui me semble aussi central, l'exploration de la gestion mentale n'est pas achevée, et je pense qu'elle ne sera jamais achevée. Et cet inachèvement, justement, la rend d'autant plus stimulante, excitante, pour tenter d'aller plus loin dans ce domaine de la recherche. Et puis, il me semble qu'il y a aussi un autre aspect sur le terrain, par contre, qui est absolument central, et on a eu de beaux exemples exposés tout à l'heure, c'est la transposition didactique. Les transpositions didactiques. Et chacun est libre d'imaginer ses transpositions didactiques. Ça me paraît extrêmement important. Nous avons une vraie liberté à ce niveau-là. Et ce n'est pas trahir la gestion mentale que faire preuve d'inventivité dans un certain nombre de transpositions didactiques. À partir du moment où on reste fidèle à l'essentiel. Donc c'est innover, c'est expérimenter, c'est au niveau des pratiques, des dispositifs, des outils. Ce qui, là aussi, mène, alors oui, à opérer des liens, bien entendu, entre recherche et transposition didactique, l'une enrichissant l'autre et les autres étant source d'inspiration pour la recherche, évidemment, puisque, étant donné que la gestion mentale est une approche expérientielle, elle s'appuie forcément sur ce qui se passe sur le terrain. Et il est important, donc, dans ce cas, de s'ouvrir. Je pense qu'il est important d'abord de s'ouvrir à l'intérieur de notre arbre, là, au niveau du feuillage, c'est-à-dire de partager le plus possible tout ce que nous pouvons explorer, mais également s'ouvrir, bien sûr, sur l'extérieur. Alors, l'autre versant de cette belle expression de fidélité inventive, c'est bien sûr la fidélité. Et la fidélité, bon, c'est évidemment la fidélité à l'œuvre d'Antoine de la Garandrie. Là, j'ai juste représenter les couvertures des deux récentes rééditions de ces œuvres, des ouvrages des années 80 et des années 1990. Et justement, cette fidélité, elle me semble, je reviens, vous savez, à cette pièce bien rangée avec cette petite étagère bien disposée, que j'ai présentée un peu ironiquement comme étouffante, mais ça offre aussi un cadre très protecteur. Et en particulier dans cette dimension éthique, je crois qu'il est quand même essentiel de rappeler que l'éthique de la gestion mentale nous évite de faire des dégâts, en fait. Car nous avons une véritable éthique de l'accompagnement et nous pouvons expérimenter, innover, sans prendre les élèves, par exemple, dans le contexte des enseignants, sans prendre les élèves comme des cobayes, comme des objets d'expérimentation. Dans le regard que nous portons sur eux, hein, il y a cette écoute inconditionnelle, hein, ce respect, qu'évidemment ils ressentent de leur côté. Alors pour autant, il peut y avoir des dérives, bien entendu. C'était juste pour rappeler que, effectivement, si on se recentre sur l'essentiel, certes la gestion mentale est complexe, mais elle n'est pas compliquée. Et ça me paraît être une distinction importante. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
Si,
d'accord. Oui, ça me paraît important. À condition de ne pas se perdre effectivement dans toute une série de subtilités théoriques, bien sûr, mais qui ont leur importance, hein, évidemment. Mais je pense qu'il faut bien distinguer l'essentiel de ce qu'il est peut-être un petit peu moins. Alors par contre, il peut y avoir donc des dérives. Bon, je les ai un petit peu développées à la fin de mon dernier ouvrage, qui peuvent être scientistes. Hein. On ne va pas présenter la gestion mentale comme une science dure, évidemment, hein, bien sûr, qui peuvent être typologiques. Bien sûr, ne pas classer les apprenants dans des catégories rigides, bien entendu, auto-centrés, hein, évidemment, l'accompagnant doit être capable de se décentrer par rapport à son propre fonctionnement pour mieux prendre en compte les personnes qui l'accompagnent, voilà, etc., il y en a d'autres. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que la gestion mentale forme un bloc uniforme et homogène. Par définition, elle est plurielle. Je crois que ça, c'est un aspect aussi essentiel, hein, dans cette fidélité. C'est une fidélité, une pluralité. Et d'ailleurs, nous tous ici présents illustrons bien cette pluralité avec le versant philosophique, bien sûr, le versant pédagogique, très présent également, le versant didactique, qui s'est exprimé donc tout à l'heure. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, nous avons un cadre qui nous permet, me semble-t-il, de nous ouvrir sur l'extérieur et surtout d'essayer de nous faire mieux comprendre, d'essayer de surmonter cette difficulté liée à l'environnement numérique, à la prégnance des neurosciences, ce qui nous mène finalement en conclusion, juste à rappeler donc ces trois éléments, hein, qui m'ont paru extrêmement importants, affirmer notre identité, s'ouvrir pour se confronter, se rapprocher, chercher comment mieux nous faire comprendre, nous appuyer donc sur cette fidélité inventive pour surmonter les difficultés, les obstacles que nous rencontrons. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie? Est-ce que c'est un projet réaliste? Moi, j'ai envie de terminer par une citation d'un petit ouvrage qui est sorti tout récemment de François Sureau, ouvrage pessimiste d'ailleurs, hein, qui s'intitule « Sans la liberté », qui est plutôt sur un registre sociopolitique, mais la première phrase, je la trouve très, très interpellante. La liberté n'a jamais cessé de me surprendre pour ses promesses quand j'étais jeune et plus tard pour la facilité avec laquelle nous étions portés à oublier ses exigences ou pire encore, à en dédaigner la valeur. Donc vous voyez, je trouve que cette citation m'a beaucoup interpellé parce qu'elle pose la question de notre responsabilité. Dans qu'est-ce que nous faisons de cette liberté, qu'est-ce que nous en avons fait, qu'est-ce que nous allons faire. Et je pense qu'il est essentiel, et je suis là encore François Sureau, de ne pas perdre le goût de la liberté, de savoir la savourer, de savoir en tirer tous les fils et relier ces fils, de tenter des aventures. Et j'en terminerai avec ça. Je vous remercie pour votre attention.